Et c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord au Japon où le Premier ministre Shinzo Abe a démissionné ce matin pour raison de santé, de sorte que les spéculations vont bon train à présent pour savoir qui pourrait lui succéder.
Comme attendu, Donald Trump a formellement accepté hier soir la nomination du Parti républicain pour un second mandat.
L'occasion de dresser donc le bilan de ces 4 jours de convention où les conservateurs n'auront eu de cesse de présenter leurs adversaires démocrates comme une menace pour la grandeur de l'Amérique. En Turquie, une avocate connue pour sa défense des militants d'extrême gauche et emprisonnée depuis presque 3 ans est décédée hier soir au terme d'une longue, très longue grève de la faim. Et puis l'actualité, ce sont également ces Parisiens qui depuis ce matin 8h ont l'obligation de sortir masqués à tout moment et dans toutes les rues. Décryptage dans une quinzaine de minutes avec notre invitée, la philosophe Corinne Peluchon. Ses récentes visites à l'hôpital n'avaient cessé depuis plusieurs semaines déjà d'alimenter les rumeurs et ce matin, le Premier ministre japonais Shinzo Abe, atteint d'une maladie chronique, a donc fini par annoncer sa démission, mettant ainsi fin au plus long mandat à la tête de la 3e puissance économique mondiale. Lui qui prenait un Japon décomplexé de son passé et n'aura eu de cesse de relancer la croissance et renforcer la sécurité de son pays, avait survécu à d'innombrables scandales touchant des proches avant donc d'être rattrapé par une santé fragile. Alors évidemment, cette démission lance désormais la compétition pour prendre la tête du Parti libéral démocrate dont il était issu et dont le nouveau patron deviendra de facto Premier ministre. Bref, un véritable coup de tonnerre qui ouvre une période d'incertitude alors même que la crise du coronavirus avait déjà fortement rejailli sur l'économie du pays. Karine Nishimura nous appelle de Tokyo.
Abe démissionne. L'information a circulé dans les médias nippons bien avant que l'intéressé ne le confirme en conférence de presse.
J'ai estimé qu'il n'était pas raisonnable de rester Premier ministre quand on a trop perdu confiance en soi. J'ai décidé de quitter mes fonctions.
À 13 ans d'écart, l'histoire se répète pour ce vétéran de la politique. C'est en effet la deuxième fois qu'il est contraint de renoncer à ses fonctions de Premier ministre à cause de la maladie. Sa santé a toujours été son point faible. Elle le lâche au pire moment.
Pour un homme politique, le plus important est de produire des résultats. Quand on doit lutter contre la maladie, recevoir des soins, quand on n'est pas en pleine forme, on risque de commettre des erreurs sur des décisions politiques importantes.
Il part en pleine crise du coronavirus qui a en partie anéanti les résultats de sa politique économique Abenomics et à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo auxquels il tenait tant. Son principal regret sera de ne pas avoir réussi ce qu'il considérait être sa principale mission, réformer la constitution pacifique japonaise, jamais amendée depuis son entrée en vigueur en 1947. C'est désormais, selon lui, la mission du parti et il espère que son successeur s'en chargera.
C'est dans une Amérique à fleur de peau que Donald Trump a sans surprise formellement accepté hier soir la nomination du Parti républicain pour un second mandat, s'exprimant depuis les jardins de la Maison-Blanche. En dépit des critiques sur le choix de la résidence présidentielle à des fins partisanes, le milliardaire a notamment qualifié son adversaire Joe Biden d'extrémiste de gauche qui instaurerait une Amérique anarchique et dangereuse. Alors en réalité, cette assertion que l'Amérique serait au fond au bord du gouffre n'est pas tout à fait nouvelle, elle est même au cœur de la rhétorique de Donald Trump depuis au moins le printemps dernier, c'est-à-dire date des grandes manifestations qui avaient vu le jour à la suite de la mort de George Floyd. Or depuis, voilà que les blessures infligées à Jacob Blake ont à nouveau rallumé les braises de la colère antiraciste et c'est ainsi par exemple que des milliers de manifestants sont attendus aujourd'hui pour une nouvelle marche sur Washington, 57 ans, jour pour jour après celle organisée par un certain Martin Luther King. Valérie Cantier, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons donc essayer de dresser le bilan de ces 4 jours de show et peut-être pour poser déjà le cadre, Valérie, faut-il commencer par rappeler combien cette convention républicaine aura été d'abord et surtout une affaire de famille.
Oui, on peut appeler ça la convention de Donald Trump plutôt que la convention républicaine, tout simplement. À la tribune, on a vu défiler du Trump, encore du Trump. Toute la famille a pris la parole et notamment les 4 enfants adultes. Seule Barron, 14 ans, n'a pas parlé. La première dame, Melania Trump, qui cette fois-ci a dû faire attention à ne pas plagier le texte d'une autre First Lady, comme elle l'avait fait il y a 4 ans, utilisant des passages entiers d'un texte de Michelle Obama. Cette convention, c'est aussi celle où Ivanka Trump, la fille chérie, a reconnu quelques petits travers de son père.
My father has strong convictions.
Le style de communication de mon père ne plaît pas toujours, a-t-elle dit. Et ses tweets sont souvent sans filtre. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes, selon elle. C'est une convention républicaine également qui n'a pas entériné de programme, et ça c'est extrêmement rare. Une convention où aucun représentant officiel du parti n'a pris la parole. Et là aussi, ça veut dire beaucoup. Cette convention aussi a vu des personnages, pour le moins caricaturaux, être invités. Par exemple, ce couple qui avait fait le tour des réseaux sociaux en sortant devant chez lui, armé, pour soi-disant se défendre et faire face à des manifestants du mouvement Black Lives Matter dans le Missouri.
Alors hier soir, seule parmi ses 5 enfants invités à s'exprimer, la fille du président Ivanka a mêlé anecdotes intimes et envolé passionné pour défendre donc le bilan de son père. Pour autant, Valérie, le sentiment qui domine à l'issue de ces 4 jours, eh bien, c'est qu'on aura présenté un président qui, à bien des égards, en réalité, n'existe pas.
Oui, à écouter les intervenants, on a découvert en quelque sorte un Trump inconnu. En tout cas, certainement pas le Trump qui est aux manettes depuis 4 ans. En quelque sorte, il a fallu effacer l'image d'un Trump divisant le pays, puisque son opposant démocrate, Joe Biden, est en tête dans les sondages et qu'il se présente, lui, comme l'homme de l'empathie et de l'union. Et apparemment, ça marche donc chez les Américains. Du coup, chez les Trumpistes, on n'a pas hésité à tordre la réalité et faire appel aux fake news. Par exemple, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui est devenu l'un des plus fidèles de Donald Trump.
La condamnation du killing était universelle, de président Trump aux leaders démocrates.
Il affirme, par exemple, qu'après la mort de George Floyd, démocrates et républicains étaient en phase pour ramener le calme et passer un texte contre les violences policières, mais que le mouvement Black Lives Matter lui-même aurait empêché cette union d'exister et aurait créé le chaos. Or, comme on le sait, Donald Trump a toujours mis le feu aux poudres dans ce genre de dossier, notamment après la mort de George Floyd. Quant à Donald Trump lui-même, à la tribune, il était presque méconnaissable hier devant la Maison Blanche et une multitude de drapeaux. Il est apparu très calme, avec un ton posé, et pendant près d'une heure, il s'est présenté comme un homme d'union, de réconciliation. Il n'a pas oublié, bien sûr, d'évoquer Dieu. Les évangéliques, on le sait, c'est très important pour le vote républicain et surtout pour le vote de Trump. Il a évoqué également, bien sûr, les valeurs familiales. Il a bien insisté sur la probable arrivée d'un vaccin américain contre le Covid-19. On le sait, il mise notamment sur la sortie d'un vaccin pour être élu. Et en plus de ça, il a vraiment insisté sur le fait qu'il s'opposait tout simplement à un candidat socialiste. C'est vraiment le terme qui a été utilisé pendant 4 jours au sujet de Joe Biden.
Merci Valérie Cantier. Quand les États-Unis s'enflamment littéralement cette fois-ci en Californie, là-bas les incendies parmi les plus vastes de son histoire continuent de ravager l'état de l'Ouest américain depuis la mi-août. 500 000 d'hectares ont déjà brûlé. Enfin, le courroux de la nature, toujours et encore, même s'il a été rétrogradé en tempête tropicale, l'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la Louisiane, a tracé hier un chemin mortel et dévastateur, tuant au moins 6 personnes et laissant des centaines de milliers d'autres sans électricité, arbres déracinés, bâtiments écroulés, toits arrachés, rues inondées. Si les premières images montrent les scènes de désolation habituelles, elles n'en restent pas moins extrêmement spectaculaires. Elle réclamait un procès équitable qu'elle n'obtiendra jamais plus. Hier, après que des médecins eurent tenté en vain de la réanimer dans un hôpital d'Istanbul, son pouls s'est arrêté. Ebru Timtik, persécuté par le pouvoir turc, condamné en 2019 à plus de 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste, est décédé pour avoir eu le seul tort d'exercer son métier d'avocate. En octobre dernier, un appel du verdict avait été rejeté et un autre appel était en cours devant la Cour suprême de son pays. Pour sa défense, elle avait entamé une grève de la faim 238 jours plus tôt, un jeûne de la mort. Depuis ce matin, ses soutiens mettent en cause la responsabilité des autorités dans sa disparition. C'est une correspondance à Istanbul signée Anne Handlauer.
Cela faisait 238 jours qu'Ebru Timtik refusait de s'alimenter. L'avocate de 42 ans est décédée à l'hôpital d'Istanbul où elle avait été transférée contre son gré fin juillet. Ces derniers jours, ses proches avaient décrit une femme d'à peine 30 kilos, consciente mais à bout de force, incapable de parler. Emprisonnée depuis 3 ans, Ebru Timtik était jugée pour appartenance à une organisation terroriste. condamnée en première instance en mars 2019 à 13 ans et demi de prison. Elle dénonçait un procès à charge et attendait depuis plus de 3 mois que la Cour de cassation se prononce sur son sort et celui des 17 collègues poursuivis avec elle. La mort d'Ebru Timtik a été annoncée par un groupe d'avocats dont elle était membre. Ebru Timtik est tombée en martyr. Ebru Timtik est immortelle, a proclamé le groupe sur Twitter, alors que les mots dièses Ebru Timtik et Erdogan assassin, en référence au président turc, s'installaient en tête des tendances sur les réseaux sociaux en Turquie. Le 14 août, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa demande de libération immédiate, au motif que ses jours n'étaient pas en danger.
On risque d'aggraver des tensions déjà vives après que la Turquie a annoncé hier de nouvelles manœuvres militaires en Méditerranée orientale. Le Parlement grec a lui ratifié hier soir un accord bilatéral sur la délimitation des zones maritimes entre son pays et l'Égypte. De quoi susciter aussitôt la colère d'Ankara. Rappelons que la découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers dans cette région a non seulement aiguisé l'appétit des pays riverains, mais surtout attisé un peu plus encore donc les contentieux déjà ancien entre la Turquie et la Grèce. Après 3 semaines d'échanges de tirs quasi quotidiens, l'armée israélienne a de nouveau bombardé ce matin la bande de Gaza en réponse à d'énièmes tirs de roquettes du Hamas, et ce, en dépit des efforts du Qatar pour calmer le jeu. Depuis le début de la contestation sans précédent des Biélorusses contre leur président Loukachenko, les observateurs portent leur regard inquiet vers Moscou dans l'expectative d'une réaction. Et bien, c'est désormais chose faite. Hier, le président Vladimir Poutine, tout en appelant les partis à un règlement négocié, n'a pas hésité à souffler sur les braises en se disant prêt à déployer des forces chez son voisin si la contestation post-électorale devait y dégénérer. Comment tout faire pour éviter un reconfinement face à une recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France? La réponse pourrait se résumer avec cette formule: remplacer 4 murs par un simple bout de tissu, ou comment apprendre à continuer à sourire, mais derrière un masque. Depuis ce matin, 8h, le port de ce nouvel accessoire indispensable est devenu obligatoire dans l'ensemble de l'espace public à Paris, de même que dans les 3 départements de la Petite Couronne, à tout moment donc et dans toutes les rues, sous peine d'une amende de 135 €. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors en réalité, depuis hier, c'est un total de 21 départements qui sont désormais placés en zone rouge, dont d'ailleurs celui des Alpes-Maritimes, où doivent malgré tout avoir lieu les 2 premières étapes du Tour de France cycliste qui commence demain, de sorte que la généralisation du masque, Anne, pourrait bientôt gagner d'autres grandes villes du pays.
Oui, à Bordeaux, le maire Pierre Urmic vient de rendre public un nouveau périmètre où le masque sera obligatoire à partir de lundi, jour de la rentrée scolaire. Il s'étend de la place Gambetta au Chartron jusqu'au pont Saint-Jean, à savoir le centre-ville, rive gauche. De larges périmètres masqués sont déjà en place dans les autres grandes métropoles, Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, Lille, dans certaines rues et depuis ce matin donc à Paris et dans la Petite Couronne, cette zone limitrophe de la capitale composée des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 123 communes au total, ce qui représente avec Paris plus de 6 500 000 habitants. Et cette géographie du masque n'est pas prête de s'arrêter. Au ministère de l'Intérieur, en ce moment même, se tient une réunion avec les préfets en présence du ministre Gérald Darmanin et de Jean Castex, le Premier ministre, pour lutter contre l'épidémie. Les préfets sont la cheville ouvrière des politiques, politique qui nécessite un bon tuilage avec les communes sur le plan juridique, mais aussi pour les contrôles de police. Il paraît également essentiel d'assurer une bonne communication, d'éviter les bras de fer entre les communes et l'État, comme cela vient de se produire à Marseille, la maire écologiste Michel Rubirola dénonçant un manque de concertation sur les mesures sanitaires. Cohérence d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre de Français ne veulent plus se plier aux règles, a expliqué hier Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Merci Anne Fauquemberg. Alors si depuis ce matin le port du masque est donc devenu obligatoire dans l'ensemble de l'espace public de la capitale, au-delà de la question de l'opportunité d'une telle généralisation, pourquoi maintenant, pas avant? Un certain nombre de dérogations peuvent également interpeller. La mesure concerne tous les piétons, de même que les motards, mais à la demande de la mairie, les cyclistes et les adeptes du footing et autres gouttelettes en ont été exemptés in extremis. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Visiblement, les autorités, Diane, ont encore du mal à délimiter un cadre cohérent.
Effectivement, hier soir, la préfecture rendait le port du masque obligatoire pour les sportifs, les cyclistes. Elle a finalement rétropédalé face à la ville de Paris. L'adjoint à la mairie en charge des questions de sécurité, Nicolas Nordman, assure que la négociation s'est faite cordialement et il se félicite de l'évolution des règles.
Pouvoir ne pas porter le masque, c'est aussi favoriser quelque part les circulations à vélo. C'est permettre notamment de désencombrer un peu les transports en commun, Il est également acquis que le port du masque dans le cas d'un exercice physique, jogging particulièrement, est déconseillé par l'OMS. Il nous semble tout à fait judicieux que ces deux cas de figure aient été retirés de l'obligation du port du masque.
Mais il reste quelques questions pratiques, comme enlever son masque pour fumer dans la rue, manger un sandwich, est-ce possible ? Ce matin, la réponse c'était non, d'après Anne Souiri, adjointe en charge des questions de santé. Finalement, après négociation, là encore, la préfecture s'adapte, selon Nicolas Nordman.
Il a été indiqué par la préfecture que, évidemment, dans le cadre des contrôles et éventuellement des verbalisations, il serait demandé aux forces de l'ordre de le faire avec discernement. Avec discernement, c'est laisser la possibilité à quelqu'un qui mange ou qui fume de ne pas porter son masque.
Et pour l'instant, les autorités ne prévoient pas de sanctions systématiques. Il s'agit dans les premiers jours de faire de la prévention, le temps justement que les Parisiens apprennent ces nouvelles règles qui n'arrêtent pas de changer.
Merci Diane Berger. Et pour continuer de parler de ce port du masque rendu obligatoire, invitée de la rédaction aujourd'hui, la philosophe Corinne Pelluchon. Bonjour madame.
Bonjour.
Une première question peut-être très personnelle. Êtes-vous favorable vous-même au port du masque ?
Oui, absolument. Il me semble que c'est une mesure contraignante mais nécessaire dans les circonstances présentes où il y a une recrudescence du virus.
Alors, sans remonter évidemment jusqu'au philosophe des Lumières que vous connaissez bien, qui désignait notamment le masque comme la quintessence de l'hypocrisie, parce qu'aujourd'hui nous avons pris l'habitude donc de sortir dans l'espace public à visage découvert, eh bien cette nouvelle obligation, elle contrevient finalement au fondement de notre culture. Nous vivons un moment inédit. Faut-il parler, selon vous, de révolution sociétale ?
Je pense pas que le masque ajoute ou enlève quoi que ce soit à la situation. C'est une contrainte dictée par des mesures tout à fait pragmatiques. Si on ne veut pas contaminer autrui et si on ne veut pas être contaminé, il faut le prendre. Voilà. Après, je ne pense pas que le masque soit le signe d'une révolution. La révolution, ou du moins l'évolution profonde des mentalités, des représentations, des modes de production, de consommation. J'espère que cette évolution viendra bientôt, mais elle est plus profonde et elle passe par des restructurations, des remaniements à la fois intellectuels et économiques et structurels. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, il y a des polémiques, à mon avis, tout à fait inutiles et je crois qu'on ne perd pas sa liberté de penser, sa réflexivité, sa radicalité en acceptant de porter un masque. On fait simplement un effort minimal. C'est vrai que c'est contraignant, surtout pour les personnes qui le portent du matin au soir, comme les caissières. Les médecins l'ont fait pendant le pic de la pandémie. Bon, ben voilà. Après, son originalité, je crois qu'il faut la mettre ailleurs.
Mais est-ce que les contraintes imposées au nom de l'épidémie, et en particulier celle du masque, mais pas seulement, sont néanmoins, selon vous, l'occasion de réinventer notre démocratie ?
Oh, je sais pas. En tout cas, il faut la reconstruire, la réinventer, ça c'est sûr. Les masques, c'est vrai, nous obligent à faire preuve d'imagination pour maintenir une certaine individualisation des relations, une certaine convivialité, un peu de séduction. Bon, bah, enfin, écoutez, c'est vrai que on n'est pas très beau avec un masque. On est un peu caché, mais en même temps, on peut s'habiller, on peut parler à autrui. Je veux dire qu'en ce moment, on crée vraiment des polémiques pour pas grand chose. Et voilà, ensuite qu'il faille vraiment reconstruire et avoir plus de confiance, ça c'est sûr.
Est-ce que les masques, mais aussi on pourrait parler de la distance, empêchent, selon vous, la fraternité, la solidarité, ou dit autrement, comment aujourd'hui peut-on se lier, se relier quand l'urgence sanitaire commande au contraire de s'isoler ?
Ah ben, je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut faire preuve d'imagination. Il y a des contraintes énormes actuellement au niveau de la restriction, effectivement, de notre vie sociale, des sacrifices que chacun vit plus ou moins bien. Et du coup, il faut faire preuve d'imagination. Par ailleurs, le désir se nourrit parfois des obstacles. L'imagination, je parlais tout à l'heure, dans les vêtements, pour la convivialité, dans le contact humain. Le visage, par exemple, n'est pas la face physique chez les vinaires. C'est pas parce qu'on ne voit pas les traits, le support anatomique, les yeux, la bouche, ni tout ce qui est le vecteur expressif, le sourire du visage, que l'on ne peut pas entrer en communication avec autrui, surtout à une époque où avec les réseaux sociaux, avec Internet, on peut quand même dialoguer. Donc je crois que ces polémiques ou ces problèmes pointe, c'est quand même la défiance systématique et la difficulté qu'ont beaucoup de personnes à s'opposer, à se faire entendre, à faire entendre leur voix discordante sans passer par une contestation systématique. Ça, c'est vrai que le défi actuel, c'est de penser la conflictualité qui est essentielle à la démocratie et qui n'est pas identique à la contestation. Et voilà, parce que là, aujourd'hui, vraiment, il faut, pour éviter un autre confinement, qui est quand même vraiment très contraignant, qui ruine le pays, je pense que de manière assez sage, et ça ne veut pas dire être docile, on peut prendre son masque et éviter de contaminer autrui, puisqu'on peut blesser, enfin créer un dommage à autrui sans le vouloir. Donc c'est quand même une situation inédite, terrible, qui nous rappelle aussi à quel point nos modes de vie sont notre mode de production, nos modes de consommation, bref, notre modèle de développement nous expose à des risques sanitaires et écologiques majeurs. Et ça, c'est quand même une claque que tout le monde a prise. Et le masque nous le rappelle chaque matin quand on le prend. Et encore une fois, c'est très contraignant, c'est pas agréable. Mais en même temps, les efforts que nous devons faire pour initier la transition écologique, pour reconstruire ce pays, mais aussi vraiment changer de modèle de développement, les changements drastiques qui sont nécessaires, si chacun recule, juste parce qu'il s'agit de prendre un masque le matin en partant, c'est quand même, on ne pourra rien attendre de manière libre, on ne pourra attendre aucun changement, sauf par la coercition, ce qui serait quand même enterrer la démocratie, puisque la démocratie, et aujourd'hui, il y a des changements drastiques qui doivent être faits, mais pas par la contrainte, avec le consentement de chacun et son imagination. Encore une fois, l'imagination, c'est le sel de la vie, et il n'y a rien de grand qui ne passe par la créativité, l'imagination des individus et des groupes.
C'est de cela, au fond, dont le masque serait le symptôme, cette nécessité de changement.
Bah, écoutez, la pandémie qu'on a traversée, qui est encore là, qui nous surprend, ça a quand même coûté très cher. Nous avons de la chance en Europe qu'il y ait des réponses collectives. Pour une fois, l'Europe a été vraiment au rendez-vous. Ça sera peut-être même pas suffisant. Donc ça, il faut le saluer. Nous sommes dans une période de risque pour en raison du réchauffement climatique, des crises sanitaires auxquelles nous exposent nos modes de consommation, l'usage massif de pesticides, les antibiotiques utilisés trop souvent dans les élevages qui créent une résistance antibiotique. Bref, nous avons des chantiers énormes de changements qui vont pas se faire du jour au lendemain, mais qui demandent des efforts de chacun et qui ne sont pas tous ces efforts des sacrifices, qui peuvent être aussi l'occasion de changer ses habitudes. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne meurt pas quand on change de représentation et quand on modifie ses habitudes alimentaires et autres. Et au contraire, ça peut être le lieu d'une autonomie morale, l'occasion d'affirmer ce à quoi on tient, son attestation, comme disait Ricoeur, qui rappelait le lien en allemand entre Bezeugung, attestation, conviction, Bezeugung, Zeugnis, témoignage. Bref, aujourd'hui, chacun doit inventer les manières de s'alimenter, de vivre pour initier cette transition écologique et donner une réponse libre et non pas coercitive à ces changements drastiques. Et c'est vrai que ce serait quand même dommage qu'il faille en venir à la contrainte, à une sorte de la coercition pour évoluer. Enfin, quand même, c'est dommage dans une démocratie comme la démocratie française. Donc, je crois que si les gens ne sont pas d'accord avec tout un tas de choses, et on a des raisons aujourd'hui de ne pas être d'accord avec le monde tel qu'il va, il y a des raisons de s'indigner, mais je crois que la manière, la réponse à donner à son indignation, c'est pas refuser de porter le masque.
Et on terminera par ces mots. Merci Corinne Pelluchon, philosophe, je le rappelle, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Revigoré par ses bons résultats au municipal, le Parti Socialiste se retrouve à partir d'aujourd'hui à Blois pour 3 journées de débats et de rencontres destinées à promouvoir un projet commun de la gauche. En l'occurrence, son premier secrétaire Olivier Faure espère poser les bases d'une coalition en vue de régionale, manière à terme de pouvoir porter cette fois-ci un projet d'union de la gauche à l'élection présidentielle. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
En clair, Sophie, l'objectif semble assez complexe pour Olivier Faure, tenter de faire l'union avec d'autres formations politiques, en particulier Europe Écologie Les Verts, sanitaire, alors même que cette stratégie divise dans son propre camp.
Oui, mais le premier secrétaire du Parti Socialiste n'en démord pas. Il le répète, il faut construire un projet de coalition qui respecte chacun et permette de gouverner ensemble, selon ses mots, quitte à se ranger derrière un candidat issu des rangs d'Europe Écologie Les Verts pour la prochaine élection présidentielle. Deux prétendants potentiels à une candidature écolo-socialiste sont d'ailleurs présents à Blois pour ces journées d'été. Yannick Jadot, eurodéputé et ex-candidat Europe Écologie Les Verts en 2017, qui s'était rangé derrière le candidat du PS, et Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, et qui est lui aussi ouvertement intéressé, et qui rêve de réunir, selon ses mots, un arc humaniste allant de la France insoumise aux écologistes, et qui a d'ailleurs renoué avec Jean-Luc Mélenchon cet été. Le chef de file de la France insoumise, qui n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature, mais qui rejette en bloc le PS. Alors même que la stratégie pragmatique d'Olivier Faure est rejetée aussi par des éléphants du PS, François Rebsamen ou Stéphane Le Foll notamment, qui craignent une perte d'identité et pourquoi pas une dilution du Parti Socialiste à la sauce verte. Un scepticisme auquel fait face le premier secrétaire du PS en mettant sur la table les bons résultats des élections municipales pour former une coalition en vue des régionales afin de préparer la présidentielle. C'est un peu qui tout double pour Olivier Faure, qui devrait annoncer la tenue d'un congrès cet hiver, une occasion de débattre sur la stratégie avant la dernière ligne droite vers la présidentielle. Une stratégie qui sera tranchée au final par le vote des militants.
Merci Sophie Delpont. Le théâtre du Châtelet a annoncé ce matin le départ de sa directrice artistique, la britannique Ruth Mackenzie. Son directeur général Thomas Loriot-Diprévost reste en revanche lui à son poste. On termine avec un mot rapide de météo pour cet après-midi, à l'exception de l'extrême sud de PACA ainsi que la Corse où le soleil réussira à s'imposer assez largement partout ailleurs. Le ciel hésitera encore hésitant entre nuages et éclaircies et les températures afficheront entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Anne-Laure Jumet pour le prochain journal de la rédaction.